Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne. On verra si vous êtes encore d'ailleurs premier secrétaire du Parti Socialiste ce soir. Je vous poserai la question de savoir quelles conséquences le vote des militants qui est organisé ce soir pour désigner la manière d'avoir un candidat au Parti Socialiste aura des conséquences sur vous et puis sur la France d'une certaine manière. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la campagne qui démarre. Marine Le Pen qui a décidé d'être candidate malgré tout. D'abord, est-ce que la Cour de cassation doit accélérer le processus ? Est-ce que pour vous, il faut savoir oui ou non si Marine Le Pen, si le jugement est confirmé ou non avant l'élection présidentielle ?
Moi, je ne commande jamais les décisions de justice. La justice est indépendante, elle doit le rester, nous sommes dans un état de droit. Et donc, il y a eu deux jugements, un premier en instance qui a condamné Marine Le Pen lourdement pour des faits qui sont caractérisés, détournement de fonds publics. Ce jugement a été confirmé en appel, même si la peine d'exécution provisoire a été annulée et donc que Marine Le Pen est désormais en capacité d'être candidate à l'élection présidentielle.
Pour ça, vous trouvez que voilà le fait qu'elle soit malgré tout candidate, elle en a le droit ?
Elle en a le droit. C'est légalement possible. Est-ce que c'est moralement souhaitable que quelqu'un qui se présente à la présidence de la République, à la magistrature suprême, soit elle-même une personne condamnée? Je me souviens d'une époque où l'extrême droite se vantait d'être main blanche, tête haute. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les mains sales et la tête basse. Et donc, la réalité, eh bien, c'est que la décision appartient à Marine Le Pen. Elle a donné sa réponse. Maintenant, la justice n'a pas à se prononcer en fonction de Marine Le Pen, mais en fonction de son propre agenda. Et je crois que Rémi Hatz a confirmé le fait qu'il y aurait effectivement une décision qui serait prise par la Cour de cassation en avril. Donc en avril prochain, il est possible que Marine Le Pen soit soumise au bracelet électronique.
Perturbée par des manifestants hier, le premier déplacement, ils avaient des casseroles, il y avait notamment des militants avec des drapeaux LFI ou Europe Écologie Les Verts, avec des cris comme « En prison les voleurs ». Est-ce qu'il faut littéralement l'empêcher de faire campagne, comme ça a été le cas hier? Elle a été obligée d'écourter et de changer son programme.
Bon, ça l'a pas empêché de faire campagne, et la réalité c'est qu'elle fera campagne. Mais vous ne pouvez pas non plus empêcher des citoyens qui considèrent qu'il y a là une anomalie à ce que quelqu'un qui a été condamné aussi lourdement pour détournement de fonds publics, il ne s'agit pas d'une affaire privée, il s'agit en réalité de quelqu'un qui a fraudé la loi et qui a volé l'argent des Français et des Européens. Donc l'évidence, c'est qu'il y avait une forme de retenue morale qui aurait dû s'imposer à elle, ce qui n'est pas le cas, et donc il n'est pas anormal qu'il y ait des gens qui viennent lui signifier que sa situation n'est pas normale.
Gabriel Attal dit Marine Le Pen prend en otage la campagne présidentielle. Vous trouvez que c'est le cas ?
Je ne sais pas si elle la prend en otage. La réalité, c'est que ça aurait été Jordan Bardella, c'était la même histoire. Nous sommes dans une situation où c'est un parti qui a été condamné et où le danger que représente l'extrême droite, c'est évidemment, on le comprend, une forme de trumpisation de la vie politique, mais c'est...
C'est une forme de trumpisation. Elle fait du Trump, Marine Le Pen.
Bien sûr. Elle est, non pas la copie conforme, mais en tout cas, on voit bien que son modèle est un modèle illibéral, une forme de... on passe par-dessus toutes les règles de la morale élémentaire, par-dessus l'état de droit, alors même qu'elle voulait incarner l'autorité de l'État.
Ça n'a pas l'air de décourager les Français pour l'instant. En tout cas, les premiers sondages depuis cette décision, il y a notamment ce sondage IFOP, qui montre que qui que ce soit face à elle, au deuxième tour, elle l'emporte.
C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, c'est une candidate redoutable. Et l'extrême droite est aujourd'hui avec le vent dans le dos. Donc, ce serait une forme de la capacité à comprendre la situation que de dire le contraire.
Alors, celui face auquel elle l'emporterait le plus largement, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et que voulez-vous que je vous dise? Je pense effectivement que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est à la fois un très bon candidat de premier tour, mais qu'il est le plus mauvais candidat pour la gauche au second tour, parce qu'il est celui qui permet à toutes les droites de se coaliser, puisqu'il est devenu en réalité une forme d'épouvantail commode. Et donc la réalité, c'est que il serait sèchement battu par l'extrême droite, ce qui serait un problème, non seulement parce que la défaite serait au rendez-vous, mais aussi parce que le score lui-même serait sans appel et donnerait le sentiment qu'en réalité, la France a basculé à l'extrême droite, ce qui ne peut pas être le cas, mais pour l'instant, avant de parler au second tour, parlons déjà du premier.
On va parler déjà du premier.
Et faisons en sorte qu'il y ait au rendez-vous une gauche qui est en capacité de l'emporter.
Mais c'est qui cette gauche-là? D'abord, primaire ou pas primaire?
Il y aura une primaire.
Mais alors primaire ou primaire, c'est-à-dire laquelle primaire? Pardon, je me perds complètement. J'ai essayé de comprendre.
Ça va être très simple.
Vos adhérents, je redis quand même le contexte. Il faut que tout le monde comprenne. Les adhérents socialistes sont appelés aujourd'hui à voter pour décider du mode de désignation. Donc, ils ne décident pas du candidat, ils décident du mode de désignation. Deux options. Une primaire dite ouverte, c'est-à-dire qu'il faudrait payer 2 euros mais ne pas avoir à prouver qu'on est adhérent du parti pour choisir. Et puis l'autre forme de choix, ce serait une primaire dite fermée, les adhérents socialistes et place publique à jour de cotisation qui décideraient. J'ai bon ?
Tout bon.
Et vous êtes pour la solution 1 ?
Je suis pour ouvrir les portes et les fenêtres. Je suis pour que dans un moment que vous venez de décrire, qui est un moment où nous ne sommes pas les favoris de cette compétition.
Où nous c'est le moins qu'on puisse dire, mais je vous trouve très lucide.
Mais il faut l'être. Mais donc, un moment où on sait que ce combat sera extrêmement difficile, ce n'est pas le moment du repli sur soi. C'est le moment, au contraire, où on doit ouvrir les portes et les fenêtres et créer un élan populaire, créer une dynamique, faire en sorte qu'il y ait des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes qui viennent ajouter leur force aux nôtres et qui viennent donner une légitimité.
C'est le modèle de la
candidat,
primaire 2012.
C'est le modèle de la primaire 2012 qui avait permis la victoire de François Hollande. Et donc, il faut trouver un moment, un moyen, comment on dit en bon français, on dirait un game changer, un moment qui permette de dire que quelque chose se passe dans cet espace politique-là et que nous sommes en train de prendre la mesure de ce qu'est une élection présidentielle.
Quand vous dites ouvrir
toutes les
portes...
On n'est pas nommé président de la République, on est forcément élu.
Mais Olivier Faure, vous dites...
Il faut prendre les haies les unes après les autres.
Donc là, c'est la première, aujourd'hui, en quelque sorte, cette haie-là, ensuite il y aura la haie de la primaire et puis ensuite il y aura la campagne. Mais quand vous dites ouvrir grand les portes et les fenêtres, ça veut dire jusqu'où? C'est-à-dire que vous imaginez que ceux qui viendraient et qui paieraient 2 euros... ça veut dire que n'importe qui pourrait voter. Et en même temps, vous dites la gauche hors LFI. J'ai pas tout à fait compris. Vous ouvrez, mais pas non plus grand, quoi.
Non, ça veut dire que toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette gauche-là pourront venir voter, moyennant la somme modique de 2 euros. Donc, pas de barrage à l'entrée, pas de vote censitaire. On ne demande pas aux gens de venir veiller payer 20, 30, 40, 50 euros, comme c'est le cas pour les militants. Et donc, on est dans une situation où on dit à tous... Venez choisir votre candidat et venez ensuite le supporter.
Quand vous dites vote censitaire, c'est parce que pour être adhérent, pour avoir sa carte à jour, il faut effectivement payer sa cotisation et ça peut aller jusqu'à 40 euros. Non, c'est quoi? C'est 15-20?
Mais non, c'est bien plus que ça. Vous vous rendez pas compte? Moi, je paye 6 000.
Non, je ne suis adhérente d'aucun parti, donc je ne sais pas.
Mais je vous donne ma cotisation à moi, c'est 6 500 euros.
Ah oui?
Ah, bien sûr.
Enfin, c'est parce que vous êtes député.
Parce que je suis député.
Oui, voilà, tout le monde n'est pas député. Enfin, j'espère que vous n'avez pas que des militants députés, sinon ça vous en fait pas beaucoup quand même.
Ça ferait pas beaucoup, effectivement. Mais la cotisation de base, elle est à 60 euros normalement. Donc, avec des cotisations sociales, avec la possibilité pour ceux qui ont des difficultés sur leurs revenus de payer moins cher. Mais enfin, la réalité, c'est quand même que c'est une cotisation qui est élevée. Et donc, moi, je souhaite que, y compris pour que les classes populaires puissent venir participer à ce scrutin, qu'elles puissent dire, voilà, moi, entre X et Y, je choisis X ou Y, eh bien, je souhaite que tout le monde puisse venir et que tout le monde puisse donner un élan à ce candidat. Donner une légitimité très puissante, très forte, qui permette de dire qu'il y a à un moment quelque chose qui se passe et faire en sorte que ce candidat ou cette candidate soit en mesure derrière de prendre son élan. Regardez ce qui s'est passé avec toutes les primaires, qu'elles aient eu lieu à droite ou à gauche. Ça a toujours donné un élan au candidat. Ça a été le cas pour François Hollande, ça a été le cas pour Benoît Hamon, ça a été le cas pour
Valérie Pécresse. Vos opposants au sein du Parti Socialiste vous diraient qu'ils sont aussi pour une primaire. Simplement, c'est primaire ou primaire. C'est-à-dire primaire ouverte ou primaire fermée.
Oui, bah,
et de toute façon, il y aura une primaire.
Bien sûr, il y aura de toute façon une primaire.
Il y aura de toute façon une primaire.
Ça n'est pas la même chose de faire un huis clos entre militants socialistes et place publique, même si, évidemment, j'ai le plus profond respect pour les uns et pour les autres. Je suis premier secrétaire, donc c'est pas moi qui vais cracher sur mes propres militants. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, nos militants, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent, en réalité, aller vers la victoire. Et pour aller vers la victoire, il faut éviter de donner le sentiment d'être dans l'entre-soi, d'être fenêtre et porte fermée, mais au contraire, de s'ouvrir au maximum et de dire, mais écoutez, venez avec nous, venez donner de la force à celui ou celle qui sera le candidat à la présidentielle.
Qu'est-ce que vous ferez ce soir? Vous serez premier secrétaire du Parti Socialiste encore ce soir, quel que soit le résultat?
Je ne comprends pas très bien votre question, pour tout vous dire.
Ma question, c'est que vous aviez un choix. Votre choix à vous, c'est l'option 1. Si c'est l'option 2 qui l'emporte, est-ce que vous partirez?
Vous l'avez dit vous-même, il y aura une primaire dans tous les cas de figure. Moi, ce que j'ai ouvert comme choix, c'est le fait qu'on puisse avoir deux solutions. Je suis un démocrate, donc j'ai dit, puisque nous ne sommes pas
exactement
d'accord...
Donc même si vous êtes désavoué, vous restez.
Mais il n'y a pas de question de désavoué ou pas désavoué. C'est pas un référendum pour ou contre moi. C'est ce soir un choix stratégique. Est-ce que nous considérons que nous sommes très bien entre nous et que ça suffit? Ou est-ce que, au contraire, on souhaite s'élargir, faire en sorte que le plus grand nombre ait le sentiment que ce candidat est le candidat qu'ils ont choisi? Moi, c'est la version que je défends parce que je crois qu'à un moment, dans une campagne où vous avez une extrême droite qui est en majesté, où vous avez des concurrents à droite comme à gauche qui sont déjà sur le pied de guerre et qui ont déjà marqué leur territoire, si vous voulez arriver à reprendre le terrain, bien ça suppose d'avancer.
D'ailleurs, sur cette question du calendrier, les autres sont déjà partis en campagne, enfin une partie en tout cas. Ce serait quand cette fameuse primaire? Option 1 ou option 2?
Fin septembre, début octobre.
C'est pas un peu tard?
Un peu tard.
Les uns et les autres sont déjà partis.
Toutes les primaires qui ont eu lieu précédemment.
C'était toujours à l'automne.
Toujours à l'automne, parfois même beaucoup plus tard. Et la réalité, c'est que méfiez-vous aussi des sondages. Vous avez, et c'est pas un reproche que vous faites à vous uniquement, mais c'est un reproche qu'on peut faire au monde politique comme au monde médiatique. Tous les ans, avant chaque présidentielle, c'est pareil. On commente les sondages et on dit « Oh là là, ça va être... » La réalité, c'est que si les sondages avaient vu juste un an à l'avance, ça se saurait. Depuis 1974, ils se sont quasiment toujours
trompés. On se souvient de François Hollande, le fameux monsieur 3%.
On se souvient de François Hollande, mais on pourrait aussi dire que, normalement, Alain Juppé, Édouard Balladur, Raymond Barre, même peut-être Éric Zemmour, tous ces gens-là ont été un jour promis à l'élection présidentielle par les sondages, et la réalité, c'est qu'ils n'étaient même pas au second tour la plupart du temps.
Vous serez candidat?
Vous verrez.
Vous serez candidat?
Mais je n'ai pas... Moi, je cherche depuis des
mois... Vous ne serez pas candidat?
Et je n'ai rien dit, j'ai dit simplement que ça fait des mois que je cherche surtout à tenir un rôle exigeant, qui est celui d'un premier
mais
secrétaire.
Mais vous cherchez aussi, mais vous ménagez la possibilité de l'être.
Je suis premier secrétaire, il ne serait pas illégitime que je le sois. Je n'ai pas dit que j'avais pris ma décision. Mais ce que je dis,
c'est que... Mais vous n'avez pas décidé de ne pas l'être.
Ce que je dis, c'est que ça fait des mois que je cherche à concilier des points de vue qui sont parfois très divergents. Pourquoi faire? Pour arriver à rassembler la gauche que j'ai dite.
Mais vous n'arrivez même pas, pardon, Olivier Faure, mais à un moment, il faut quand même regarder les chiffres. Vous n'arrivez même pas à rassembler votre propre groupe de députés. Je disais qu'ils étaient déjà pas si nombreux, mais surtout, ils sont divisés. Ce qui s'est passé lundi, vous avez annoncé vous-même voter la motion de censure et vous l'avez en effet fait. Mais sur le groupe, il y a 20 députés, dont vous, qui avez voté la censure sur 68. Vous êtes en minorité dans votre propre groupe.
Il peut arriver qu'on soit en avance de phase. Moi, on a eu un débat qui a été un débat curieux, mais enfin, je ne vais pas ici le qualifier davantage. Et effectivement, j'ai fait un choix. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que je ne veux pas donner quitus au gouvernement. Vous avez vu encore ce matin les images qui sont produites dans la Drôme avec l'absence de Canadair, l'absence de moyens qui sont là pour lutter contre les incendies qui sont directement liés à la canicule. J'ai tout à l'heure écouté Cécile Duflot à votre micro qui expliquait qu'on était dans une époque où on commençait même à avoir des réfugiés climatiques. Je ne voulais pas donner quitus au gouvernement de son action sur le climat. Alors à un moment où au contraire il réduit les budgets qui sont destinés à limiter le réchauffement climatique et la résilience climatique.
Mais ça n'a pas été votre seul argument.
Le deuxième argument que j'ai évoqué devant mon groupe, c'est de dire, rendez-vous compte que le lendemain de ce vote, il y aura un vote qui sera proposé par le gouvernement sur l'adoption d'une loi qui crée une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire une inversion totale de la charge de la preuve et une blessure dans l'état de droit. Et j'étais fasciné de voir que la droite et l'extrême droite, main dans la main, ont voté cette proposition. J'ai été avec beaucoup d'autres au Panthéon il y a quelques mois, au moment où le président de la République a honoré Robert Badinter. Mais ce soir-là, Robert Badinter, il n'était pas à l'honneur, et c'est l'extrême droite qui était déjà majoritaire.
Vous parleriez d'un permis de tuer?
J'irai pas jusqu'à parler de permis de tuer parce
C'est un des arguments et ce sont des cris qui ont été entendus depuis les rangs de la gauche dans l'hémicycle. Vous ne dites pas vous permis de tuer. Vous ne dites pas que c'est un permis de tuer.
Non, ça, la réalité, c'est que heureusement, les policiers ne sont pas tous à chercher à cibler des gens et à s'autoriser le meurtre de gens qu'ils considèrent comme des délinquants. Mais la réalité, c'est quand même que c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que on présume le fait que quand un policier fait usage de son arme à feu et qu'il tue quelqu'un, il était en état de légitime défense.
Mais vous comprenez,
ça n'est absolument
Olivier
pas toujours
c'est...
le cas.
Alors, j'entends parfaitement ce que vous dites là-dessus et sur l'écologie, mais c'est un peu illisible et c'est d'ailleurs ce qu'a remarqué Jean-Luc Mélenchon, qui a été assez au minimum ingrat sur le fait que vous votiez avec eux et avec
pas
Europe
ingrat.
Écologie
Les Verts. Il a très bien compris une chose, parce que Jean-Luc Mélenchon, ce jour-là, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que lui, il voulait pouvoir dire une chose simple. Il voulait pouvoir dire, regardez, les socialistes, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas avec les écologistes. Petits écologistes, venez à moi. Et donc, contrarié dans ce discours-là, il vient me taper dessus, comme toujours, parce qu'en réalité, celui qui a le plus souvent subi les foudres de Jean-Luc Mélenchon, c'est moi.
C'est vous.
Pourquoi? Parce que, justement, il considère que je le prive d'une part de son espace politique, alors même qu'il serait très heureux d'avoir François Hollande face à lui, parce qu'il considère que dans ces cas-là, il pourrait élargir son spectre. Et moi, je suis un homme de gauche. Et donc, je me bats sur des sujets qui sont des sujets de gauche, et ça le gêne parce qu'il voudrait s'approprier à lui seul la gauche.
Vous n'avez pas le monopole quand même des critiques de Jean-Luc Mélenchon et pas non plus le monopole de la gauche.
Bien sûr que non, c'est pas ce que je dis.
Mais face à lui, effectivement, vous avez entendu donc ces mots. Il dit Olivier Faure a trahi sa parole, sa dignité, la NUPES, le Nouveau Front Populaire, tout et tout le monde pour devenir le candidat des centres. Il a refusé 10 fois la censure pour sauver Macron et maintenant, il met un maillot d'insoumis pour voter avec nous et les écolos la censure de Le Cornus. Ce n'est plus une girouette, c'est un ventilateur cette saison, mais Hollande n'aura pas de pitié.
Je viens de vous répondre, je vous l'ai dit, en fait, il aurait tellement aimé que je ne vote pas cette censure. Tellement aimé pouvoir dire, regardez les socialistes, regardez comme ils sont. Ils donnent quitus au gouvernement sur la question climatique. Et malheureusement, ce discours-là, il ne peut pas le tenir. Voilà.
Le fait que il y ait parmi les rangs de la gauche non seulement les déclarés ceux qui espèrent pouvoir se déclarer comme Raphaël Glucksmann, mais ceux aussi comme Bernard Cazeneuve, comme François Hollande, dont on sent qu'ils sont un peu tapis dans l'ombre, qu'ils se préparent. Voilà, c'est l'expression. En effet, je sens une petite ironie de votre part.
Oui, peut-être.
Oui, je sens de l'ironie.
Sans doute.
Voilà. S'ils sont candidats à cette fameuse primaire de la gauche, ils choisiraient plutôt le scénario 2, ce dont je viens de parler.
Je crois qu'ils choisiraient d'attendre. Et que François Hollande ne veut se plier à aucun vote.
Ah, il ne veut se plier à aucun vote?
Je crois avoir compris ça. Je crois qu'il l'a déjà dit publiquement, ou en tout cas, il y a des offres qui ont été craquées, et donc je pense qu'il ne veut se soumettre à aucun vote.
Et Raphaël Glucksmann, qui serait évidemment sans doute le favori d'une option 2, puisqu'il s'agirait comme électeur de cette fameuse primaire, à la fois des adhérents socialistes, mais aussi des adhérents Place Publique. Vous trouvez que c'est tout à fait juste?
C'est pas l'option que je défends, vous l'avez compris. Maintenant, moi je me plierai à la décision que prennent les militants. C'est vrai que le problème d'une primaire fermée, c'est que c'est une primaire dont on peut soupçonner d'ores et déjà le résultat, parce que le corps électoral détermine presque le résultat.
Comment c'est vous définiriez votre gauche aujourd'hui? J'ai l'impression qu'à chaque fois l'expression c'est gauche hors LFI. Ça fait un peu maigre d'être juste hors LFI.
C'est pas ce que je dis, j'ai pas dit gauche hors LFI. Moi j'ai dit la gauche démocratique et écologique. Et je défends, non pas... Vous m'interrogez sur LFI, je vous réponds, je suis là pour vous répondre. Mais la réalité, c'est que je parle très peu de LFI. Ça n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si on est contre X ou Y. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous portons.
Bah, eux parlent beaucoup de vous.
C'est leur problème.
On l'a vu notamment avec ce message de Jean-Luc Mélenchon.
Peut-être que parfois on les obsède, mais moi ça ne m'obsède pas. Ce qui m'obsède, ce sont les Français, la France, son État, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et c'est la seule boussole qui me guide.
Merci Olivier Faure d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste, 8h48.